Le Monde aujourd'hui avec Julien Corona.
Aujourd'hui à l'émission, élections municipales au Québec et incapacité sur le marché du travail. Bonjour à tous, vendredi 1er octobre, Le Monde d'aujourd'hui avec Julien Corona. Aujourd'hui, nous allons parler des incapacités sur le marché du travail, mais avant toute chose, nous recevons Guillaume Rousseau pour discuter avec lui des élections municipales et de l'état des forces au Québec un mois avant le vote. Guillaume, je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Sherbrooke, la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke, et que vous êtes aussi chroniqueur sur différents sujets juridiques et politiques à de nombreux médias, comme le 98.5 en Estrie. Donc, première question, donc les municipales auront lieu le mois prochain. Est-on pour le moment, pour l'instant dans les grands centres urbains, sur une campagne de personnes ou une campagne de propositions?
Donc, c'est sûr que la politique municipale, c'est souvent des personnes qui se réunissent autour d'un chef ou d'une chef ou du moins d'une personne candidate à la mairie. Donc, il y a quelque chose, souvent même le nom du parti, on y adjoint le nom de la personne candidate à la mairie. Donc, ça reste une politique qui est beaucoup autour d'une personnalité, mais il y a quand même de la place pour des propositions. On le voit là, depuis la fin de la campagne électorale fédérale, il y a plus de place pour la campagne municipale et on voit certaines propositions ressortir, surtout que les municipalités ont plus de compétences aujourd'hui qu'elles en avaient là il y a quelques années. Alors ça fait en sorte qu'il y a suffisamment de compétences pour dire qu'il y a des choses qui relèvent des municipalités et donc que les candidats aux élections municipales peuvent arriver avec du contenu là, autre que juste les aqueducs et les égouts. Là.
Au niveau de cette année, au niveau de la campagne, ce qui est assez intéressant, c'est un nombre record de femmes, 37% de femmes, ça reste quand même assez faible quand on parle beaucoup de parité en politique, qu'elle soit municipale ou nationale au Québec et au Canada. Mais c'est quand même un nombre record, donc 37% de femmes, et il y a aussi un nombre en hausse de jeunes se présentant aux élections. Est-ce que ça en dit long sur une santé du milieu municipal qui arrive enfin à attirer une nouvelle relève, une nouvelle génération, et donc à son pouvoir d'attraction?
Oui, effectivement, je pense que le directeur général des élections a fait des efforts dans les dernières années. Les unions municipales, donc des municipalités du Québec, la Fédération québécoise des municipalités. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits dans ce sens-là. Et là, ça rapporte, je pense, que c'est tant mieux. Puis c'est aussi, ça m'apparaît logique parce que la politique municipale est souvent un peu plus facile que la politique québécoise ou fédérale en ce qui concerne les proximités, exactement. Donc, en ce qui concerne la conciliation travail-famille, donc quand on parle des jeunes, ben souvent, c'est des jeunes parents. Donc, forcément, la question de la conciliation travail-famille se pose. Puis, même chose pour les jeunes femmes, là, même si, en théorie, maintenant, les tâches reliées aux enfants sont réparties plus également entre le père et la mère. Il y a quand même encore des couples où la mère en fait un peu plus. Donc, cette question-là, elle est importante. Puis, effectivement, c'est plus facile de faire de la politique quand on peut aller à l'hôtel de ville à tout près plutôt que de monter à Québec ou à Ottawa. Donc, clairement, la politique municipale a cet avantage-là pour les jeunes parents. Et je pense qu'on est en train de capitaliser là-dessus là, avec autant de candidatures jeunes et féminines. Et c'est tant mieux.
Et sur un point de vue plus large, est-ce que ça pourrait ruisseler ensuite sur aussi un rajeunissement de façon de parler, toute la classe politique en général ensuite. Donc, si le municipal attire, ça pourrait ruisseler pour permettre aussi une transition vers plus de jeunes en politique nationale et politique fédérale?
Peut-être. En même temps, peut-être pas pour les raisons que je viens d'expliquer, c'est-à-dire que la question de la proximité là, favorise les jeunes en municipal plus qu'au niveau québécois ou fédéral. Par contre, il y a beaucoup de gens qui commencent une carrière politique au niveau municipal, qui font de l'expérience, se font connaître, se bâtissent une équipe, et ensuite peuvent passer au niveau québécois ou fédéral. Bon, mais dans ce cas-là, les jeunes seront moins jeunes lorsqu'ils feront ce passage-là, mais quand même, ça peut être une façon effectivement de préparer une relève.
Est-ce qu'on parle souvent des jeunes et des femmes? Mais est-ce que vous pensez que le milieu municipal aussi doit faire un peu plus d'efforts pour permettre un peu plus d'inclusivité afin de permettre que d'autres couches de la société, autres minorités comme les populations LGBTQ et autres, pourraient être mieux représentées dans la politique municipale?
Ouais, mais je pense que ça progresse assez bien. Il y a toujours eu une place au municipal. On pourrait nommer un certain nombre de personnes, notamment à Montréal. Là, oui. dans le groupe. Donc ça, je pense que ça vient progresser dans les dernières décennies. Donc c'est peut-être la poursuite de quelque chose qui s'est amorcé il y a déjà quelques temps.
Donc revenons sur ces élections. Donc on a plus parlé que c'était une campagne de personnes. Néanmoins, comme vous l'avez pu mettre en lumière, les campagnes municipales servent souvent aussi à pouvoir permettre d'aller chercher d'autres pouvoirs ou plutôt d'autres financements qui permettent de lever plus de projets et donc de faire en sorte d'avoir une sorte de nouveau pouvoir. Donc la COVID a mis en lumière l'importance du milieu municipal, mais aussi certains manques. Est-ce qu'on va être dans une campagne qui, pour vous, va mener à une nouvelle dévolution de pouvoir aux municipalités?
Ben, c'est pas évident parce que en 2017, il y a quand même eu une loi sur les gouvernements de proximité qui a donné plus de pouvoir aux municipalités. Il y a eu des modifications à la loi sur Montréal, des modifications à la loi sur Québec, la capitale nationale. Donc, il y a déjà beaucoup de décentralisations qui ont été faites dans les dernières années, assez récemment. Alors, on imagine mal une très grande décentralisation qui pourrait suivre à court terme. Par contre, il y a eu aussi une réforme récemment de la gouvernance des commissions scolaires, en fait, qui, côté francophone, ont été remplacées par des centres de services scolaires. Et là, peut-être qu'il y aurait lieu que soit les centres de services scolaires ou soit le ministère de l'Éducation puissent voir certaines de leurs compétences transférées aux municipalités. Alors ça, c'est pas impossible, mais bon, il y a l'enjeu linguistique qui fait que ça peut être délicat, mais il y a peut-être quelque chose à faire là.
Un peu à l'européenne, par exemple, où on a en France certaines écoles qui sont plus gérées par la municipalité quand les collèges et les lycées sont plus gérés par l'État. Donc à Montréal, par exemple, on avait un candidat qui maintenant, aujourd'hui, à 10h du matin devant la mairie, s'est allié avec Monsieur Desjardins, Monsieur Holness, qui proposait d'aller plus loin et demander pour Montréal des pouvoirs de cité-État. Est-ce que pour vous, c'est possible?
Non, je pense pas parce que, bon, d'abord, les municipalités sont pas consacrées par la Constitution comme le sont les provinces, là, dont le Québec. Fait que déjà, c'est pas, on peut pas les mettre sur le même pied. Bon, ensuite, ça n'empêche pas Montréal d'avoir sa propre loi avec son propre statut qui la reconnaît comme métropole. Et encore là, c'est les réformes municipales de 2017 là, qui ont rendu ça possible. Il y a eu donc plus de pouvoir pour Montréal. Maintenant, à travers son histoire, Montréal est toujours allé chercher d'autres pouvoirs avant d'autres municipalités du Québec, petit par petit. Donc, on pourrait voir des choses dans ce sens-là. Est-ce qu'on peut penser, comme je disais, en matière scolaire, il y a peut-être lieu de donner à Montréal un certain nombre de pouvoirs avant de donner aux autres villes. Mais je m'attendrais pas à une grande réforme à ce niveau-là. D'ailleurs, c'est une idée qui avait été soulevée il y a quelques années par Denis Coderre, puis qui a pas été repris là, comme tel, plus que dans la formule de 2017 là, qui est pas vraiment une cité-État, mais bon.
Ça a l'air
donc,
plus
je pense que ça va aller beaucoup plus loin.
Ça a l'air plus d'une idée électorale pour aller chercher une certaine frange de l'électorat, plus en mode se séparer du Québec et de la différence québécoise qu'autre chose, on dirait.
Oui, effectivement, dans le cas de M. Holness en particulier, ça ressemble beaucoup
donc,
à ça.
Revenons sur Montréal et surtout sur les deux candidats importants pour la ville de Montréal, Mme Plante et M. Coderre. Donc, on a un début de campagne assez intéressant qui nous renseigne sur l'état des forces. Le sondage léger de la semaine dernière, il a pu montrer que Mme Plante et M. Coderre étaient au coude à coude, avec 37% environ pour M. Coderre et environ 35% pour Mme Plante. Donc on est sous la marge d'erreur, avec quand même un échantillonnage assez fort. On avait, il y a un mois, une différence beaucoup plus forte avec un M. Coderre qui avait plus de 10% des cas. Est-ce qu'on a une chute en ce moment? Est-ce que vous pensez que cette chute va durer, surtout du fait d'une personnalité de M. Coderre qui reste assez séparatrice, assez dure?
Oui, ben c'est une bonne question. Évidemment, ça va dépendre de l'allure de la campagne de M. Coderre. À date, il y a eu quand même, entre justement les sondages là où il semble avoir perdu des appuis, il y a eu un certain nombre de gaffes dans sa campagne. On se souvient qu'il avait présenté un candidat qui finalement avait des problèmes avec la justice, des problèmes de comportement. Le candidat s'est retiré. Ou c'est pas un candidat, ou c'est un conseiller. Mais bref, M. Coderre s'est associé à une personnalité là, controversée. Donc, ça peut rester. Alors là, il n'y a pas beaucoup de droit à l'erreur, surtout si ça se resserre là, la course. Là, M. Coderre n'a pas droit à l'erreur. Puis effectivement, moi, j'ai toujours cru que M. Coderre était pas si populaire que ça. On se souvient, même quand il avait gagné en 2013, c'était pas un si grand...
On avait une très forte division du vote entre différents
Exactement. Puis Mme Joly, finalement, qui était sortie de nulle part, avait fait un score impressionnant. Donc, ça démontrait déjà qu'il n'y avait pas une forte adhésion à M. Coderre, qui avait été pressenti depuis des années comme le futur maire. Puis là, tout le monde pensait que ce serait une victoire écrasante. Ça n'avait pas été le cas. Donc, effectivement, moi, j'ai jamais cru que M. Coderre était si fort que ça.
Personnalité clivante.
Exactement. Donc, mais en même temps, Mme Plante aussi peut être clivante et elle peut avoir elle aussi là une certaine faiblesse. Alors, c'est dans ce contexte-là là, qu'il faudra voir la suite.
Donc, au niveau d'une certaine faiblesse, on parle souvent que pour la personne qui sort et qui se représente, c'est surtout une campagne de défense de son bilan. Une campagne de défense de son bilan axée sur le logement social, la création, la continuation de la création de poumons verts, la continuation du réaménagement des grands axes urbains. Est-ce que la bonne stratégie à adopter? On voit qu'on est plutôt dans une campagne donc, de personnalité et de défense. Il n'y a pas de grandes propositions cette année comme la ligne rose. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne stratégie?
Ben, généralement, politique, c'est pas la bonne stratégie. Donc, généralement, les électeurs vont pas voter pour un bilan. Ils peuvent voter contre un bilan. Un politicien sortant peut arriver avec un bilan tellement critiqué, tellement négatif que ça va lui faire perdre ses élections, mais l'inverse est beaucoup moins vrai. Donc, même un politicien qui a un bon bilan peut perdre si son adversaire propose une vision d'avenir. Mmh. Donc, les gens votent pour le prochain mandat, votent pour l'avenir, votent pour les idées davantage que pour le bilan. Évidemment, il faut qu'elle défende son bilan pour pas justement que ce soit un bilan perçu négativement qui la ferait perdre, mais ça doit vraiment pas être au cœur de sa campagne. Doit vraiment proposer des nouvelles choses. Et à date, c'est vrai qu'on ne l'a pas nécessairement beaucoup entendu dans ce sens-là, avec des idées qui auraient frappé l'imaginaire.
Monsieur Coderre a lancé sa plateforme avant-hier. Cette plateforme est surtout basée sur une diminution de la charge des taxes, une densification de la ville, tout en abandonnant l'idée d'enlever la limite de taille sur les buildings au centre-ville. Un réaménagement aussi de grandes artères. On a beaucoup en parlé ces derniers jours du réaménagement du boulevard de l'Acadie. Néanmoins, aussi là, dans le cadre de la campagne de M. Coderre, il n'y a pas de grandes idées. On a l'impression plutôt qu'il défend sa personnalité plus qu'il défend le programme et le projet d'Ensemble Montréal. Est-ce que c'est une bonne idée aussi pour cette campagne?
Mais en fait, sortir la plateforme comme ça à un stade relativement hâtif, là, un mois et une semaine avant le jour du vote, ça présente un certain nombre de risques. En même temps, on ne pourra pas lui reprocher de ne pas nous faire une campagne d'idées. Donc, il a les idées. Puis avec Guillaume Lavoie et d'autres dans son équipe, on sent qu'il y a du vrai contenu. Donc, logement, sécurité, climat. Puis ça se traduit là, concrètement par des propositions, que ce soit le registre des baux, que ce soit là, la plantation d'arbres et tout. Puis aussi, la question du boulevard Acadie, je trouve ça intéressant parce que là, on voit vraiment, c'est très concret. Puis c'est un vrai problème. Puis on a une vraie solution. Donc, j'ai trouvé ça assez intéressant, là, les idées qu'il a sorties récemment. Par même temps, on sent, par même temps, il parle aussi de sécurité. Donc, il n'est pas seulement sur le social, l'environnemental, il est aussi sur le sécuritaire. Donc, je pense qu'il cherche un positionnement, disons, centriste. Il ne souhaite pas se positionner très à droite ou très à gauche. Donc,
aller
un
chercher
peu social,
le maximum de personnes.
Exactement. Un peu de social, un peu d'environnemental, un peu de sécuritaire. Par opposition à Mme Plante, qui, elle, pourrait être perçue comme moins centriste, mais plus de gauche, voire de gauche radicale. Alors, c'est peut-être le positionnement que cherche M. Coderre.
Aller chercher, par exemple, les déçus de Mme Plante, des personnes qui avaient voté pour Mme Plante car déçus de M. Coderre, et donc qui, de nouveau, deviendraient indépendants, et M. Coderre dirait « Tout est pardonné, revenez vers moi », un peu façon de parler.
Oui, effectivement. Donc, c'est effectivement les gens déçus par Mme Plante qui feront la différence. Et est-ce qu'ils vont nécessairement revenir vers M. Coderre alors qu'ils ont probablement été déçus de lui lors de son premier mandat? C'est ça qui n'est pas évident. Mais en même temps, les alternatives à Coderre et Plante ne sont peut-être pas évidentes. Quoique là, il y a l'alliance là, toute récente entre M. Holness et M. Desjardins. Mais ça m'apparaît. Faudra voir les détails. On présume que ce sera M. Holness qui serait candidat. Mais en même temps, ces deux-là avaient des positionnements différents, notamment sur la question de la langue. Donc, je trouve ça un petit peu étrange. Je suis pas sûr qu'on pourra nécessairement additionner leur pourcentage. C'est pas comme ça que ça marche en politique. Des fois, on pense que
une sorte d'élagage du vote.
Exactement. C'est un candidat à 9%, un candidat à 3-4%, se mettre ensemble, ça donne pas nécessairement 12 ou 13%. Il y en a qui vont quitter, qui se reconnaîtront pas dans les compromis qui seront faits. Alors, évidemment, ça rend plus sérieux la tierce candidature là, qui sortira de cela, mais je pense pas que c'est de nature à complètement chambouler le duel Plante-Écuyer qui se dessine.
Au-delà de Montréal, on a aussi d'autres grandes villes qui sont très intéressantes pour ces futures élections, surtout avec possiblement des changements de garde. On parle de Québec, on parle de Longueuil, de Gatineau. Je voudrais vous entendre parler à propos de Sherbrooke. On y sera aussi pour la soirée électorale à Sherbrooke. Qu'est-ce qu'on peut retenir des candidats en présence en ce moment et aussi de leurs propositions?
Oui, donc les trois candidats principaux, ben il y a d'abord M. Lucier, donc le maire sortant qui était vraiment qui a vraiment une victoire surprise de la dernière fois en 2017. Alors il a eu un mandat correct, évidemment marqué par la pandémie. Et bon, il y a eu certaines controverses. On dit parfois qu'il a pas de vision, qu'il est amateur, mais je pense qu'il reste quelqu'un de fondamentalement sympathique avec une bonne image. Donc
proche
ça, ça
des
pourrait
gens.
Le servir. Et de l'autre côté, il y a la chef de l'opposition un peu officielle, si on veut, Mme Beaudin, qui a un parti, donc Sherbrooke Citoyen. Un petit peu peut-être, on pourrait comparer peut-être Sherbrooke Citoyen à Projet Montréal là, en termes de positionnement un peu à gauche pour l'environnement, pour le social. Donc Mme Beaudin a ce positionnement-là et est une candidate sérieuse. Et là, vient tout juste de s'ajouter un peu à la dernière minute, Luc Fortin, donc ancien député de Sherbrooke, ancien ministre des affaires de la famille, culture et tout. Donc, c'est quelqu'un aussi qui est connu et qui arrive avec toute une équipe aussi, bon, des libéraux, mais pas seulement. Alors, ça fait vraiment trois candidats sérieux. Et c'est ça, les positionnements, je dirais, M. Lucier, peut-être plus l'économie, sa priorité. L'économie va plutôt bien à Sherbrooke. Mme Beaudin, surtout l'environnement. Et M. Fortin, à mon avis, devrait se positionner autour des questions de famille, culture, sport, parce que c'est des domaines pour lesquels il a été ministre. Et étant jeune père de famille, je pense qu'il peut incarner ça plus que M. Lucier et Mme Beaudin. Alors, je verrai leur positionnement comme ça. Et à partir de là, ben, chacun des trois candidats là, pourrait l'emporter.
Au niveau de Sherbrooke, pour être aussi un ancien étudiant de l'Université de Sherbrooke, j'ai pu voir ce matin qu'il y avait beaucoup un article dans la Tribune avec une forte polémique à propos de l'absence de bureaux de vote sur le campus de l'université. On a quand même 40 000 étudiants qui peuvent être capables de voter. La ville de Sherbrooke ne les aurait pas mis en place. Est-ce que vous pensez que ça peut nuire à la légitimité du maire, une diminution du vote étudiant qui constitue quand même une frange importante de la population de la ville?
Nuire à la légitimité, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que c'est pas l'idéal. Puis il pourrait avoir une baisse du taux de participation qui résulte de ça, là, surtout dans un contexte de pandémie où c'est pas toujours facile là, d'amener les gens à voter. Donc ça va être à suivre. Chose certaine, au niveau du vote étudiant, on peut penser que si jamais il y a une moins grande participation des étudiants, ça pourrait nuire à Mme Beaudin, qui est une candidate plus jeune, plus peut-être plus proche là, de préoccupations de certains jeunes au niveau environnement et tout. Alors, est-ce qu'elle réussira avec son parti, qui a quand même un certain nombre de militants et tout, donc une certaine machine
une certaine
pour faire
assise.
Sortir le vote? Est-ce qu'elle pourra faire sortir le vote quand même? J'aurais tendance à penser que oui, mais peut-être pas autant que s'il y avait eu là, des bureaux de vote sur le campus.
Dernière petite question avant de conclure cette entrevue. On a ces élections qui suivent directement les élections fédérales. On a pu voir au Québec, lors de ces élections fédérales, une sorte de primo sortant, très peu de changements, les sortants donc remis en place pour un nouveau mandat pour la plupart. Est-ce qu'on doit totalement différencier ces élections, est-ce que vous pensez que cette prime au sortant et ce comportement québécois va se poursuivre pour ces élections municipales?
Donc, c'est difficile à dire, mais chose certaine au fédéral, ce qui était particulier, c'est que c'était la deuxième élection en deux ans. Donc, les gens ont peut-être moins de temps de changer d'opinion en deux ans, alors que là, on parle d'une élection municipale à date fixe, donc aux quatre ans. Fait que déjà, ça ouvre la porte à davantage là, d'évolution dans l'opinion publique et donc dans les résultats des élections. C'est sûr que souvent, en politique municipale, on dit que les sortants ont une prime, que souvent les maires, les élus municipaux en général sont réélus. Mais on a vu qu'en 2017, il y a quand même eu des balayages. On parlait tantôt de Montréal et Sherbrooke.
Oui.
C'est deux beaux exemples là, où les maires sortants ont été sortis la dernière fois. Alors, on ne sait pas. Est-ce qu'on est dans une vague là, de un peu de pandémie où on souhaite la stabilité ou est-ce que au contraire on pourrait revenir à un certain dégagisme comme en 2017? C'est difficile à prédire à ce stade-ci.
Merci M. Rousseau d'avoir répondu à une question ce matin.
Toujours un plaisir.
Merci à vous. Passez une très belle journée. Pour la seconde entrevue du jour, nous recevons Luc Cloutier-Villeneuve de l'Institut des statistiques du Québec. Nous allons discuter avec lui de l'incapacité, des incapacités sur le marché du travail. Bonjour Monsieur Cloutier-Villeneuve.
Oui, bonjour.
Donc avec vous, on va discuter de la récente étude sur l'état des personnes en ayant une incapacité au travail sur le marché du travail québécois. C'est l'état en 2017, mais c'est quand même des chiffres très intéressants. Le rapport vient de sortir et ça peut nous renseigner aussi sur l'état actuel des choses en la matière. Donc tout d'abord, je voudrais obtenir votre point de vue. Donc en tant que statisticien, on parle souvent que vous réunissez des chiffres, vous réunissez des rapports qui vont permettre aux politiques ensuite potentiellement de mettre en place des politiques. Mais est-ce que vous donnez des recommandations?
Non, ce n'est pas notre rôle de recommander. En fait, l'Institut de la statistique du Québec, son rôle, c'est d'éclairer les enjeux là, de tout ordre dans la société québécoise. Donc, nous, c'est vraiment un rôle d'apporter l'information la plus objectivement possible pour que les intervenants, les acteurs, que ce soit au gouvernement ou ailleurs, puissent être éclairés là, dans leur point de vue ou leurs actions.
La première question, donc, à propos du sujet du jour, c'est qu'est-ce que veut dire une incapacité sur le marché du travail?
Oui, c'est une très bonne question parce qu'en fait, le terme incapacité, il faut un peu revenir avant la question du marché du travail. Dans l'enquête, on mesure l'incapacité comme étant les personnes dont les activités quotidiennes sont limitées, soit en raison d'une maladie chronique ou encore d'un problème de santé. Donc, ces incapacités-là peuvent être de différents ordres. Et évidemment, quand les personnes veulent aller et désirent aller sur le marché du travail, à ce moment-là, ben, les incapacités se vivent aussi sur ce lieu particulier. On parle entre autres des incapacités liées aux aspects physiques et mentaux, notamment la douleur, la mobilité, la flexibilité, mais aussi tout ce qui a trait à la santé mentale.
Même si votre enquête concerne 2017, pourquoi des chiffres de 2017 sont intéressants à sortir en 2021? Qu'est-ce qu'elles nous renseignent? Et est-ce que l'arrivée de la COVID peut nuire ou peut modifier la manière comment on doit percevoir ces chiffres?
C'est beaucoup de questions d'intérêt. Effectivement, pourquoi 2017? En fait, c'est les dernières données qui sont disponibles avec le recensement. Donc, c'est une enquête qui est faite un an après le recensement. Donc, après 2016, j'ai eu la dernière enquête qui a été faite en 2017. Et aujourd'hui, bon, on arrive avec presque 5 ans là, plus tard. Par contre, c'est vraiment le premier coup de sonde. Il y a déjà eu antérieurement des analyses ou des études, mais celle-ci, c'est vraiment l'enquête la plus approfondie et la plus, je dirais, précise là, sur la mesure de l'incapacité. Et donc, aujourd'hui, bon, comme vous mentionnez, avec les aspects COVID et le bouleversement du marché du travail, c'est sûr que les personnes qui ont des incapacités peuvent vivre plus difficilement là, les contraintes que ça suppose. Mais encore là, il faut voir dans quel type d'emploi les personnes se retrouvent. On sait que environ 40% là, des emplois peuvent se faire en télétravail. Donc, si les personnes ayant des incapacités ont accès à ces emplois-là, ben, on peut imaginer qu'avec les infrastructures technologiques, ils sont en mesure de pouvoir continuer à travailler.
Et votre rapport parle déjà bien de ce genre d'accès ou pas à certains types d'emplois. Donc, revenons un peu plus en détail sur les points saillants de ce rapport. Donc, comment les chiffres déjà ont évolué au courant des dernières années? Quels sont les grands points importants de ce rapport? J'ai pu un peu lire l'incapacité qui se mesure au niveau de l'influence du diplôme. On peut voir, par exemple, que plus on a un diplôme, moins la capacité est présente. C'est quand même un élément important. Donc, revenons un peu sur ces points saillants de ce rapport.
C'est sûr que, comme je vous disais, l'évolution, on ne peut pas la faire pour le moment. Donc, mais par contre, les données de 2022, là, il va y avoir une collecte l'année prochaine. C'est ça. Évidemment, ça va porter aussi sur l'année 2020. Donc, c'est une année particulière. Donc, ça va être intéressant de voir un peu comment les personnes ayant des incapacités, comment elles s'en sont sorties sur le marché du travail. Et ce qu'on constate, et vous avez tout à fait raison, dans les faits saillants, c'est que plus le niveau d'éducation, d'études augmente, ben plus la proportion ou le taux d'emploi des personnes ayant des incapacités, lui aussi, augmente. Et pour vous donner une petite idée, dans le fond, quand on compare à chez les 15-64 ans, il y a à peu près 20 points d'écart dans le taux d'emploi. On parle de 55% chez les personnes avec incapacité, comparativement à 75% là, chez celles, les personnes qui n'en ont pas. Mais quand on va voir ceux qui possèdent des diplômes universitaires, l'écart est réduit à 6 points. Donc, on parle de 79% des personnes là, qui ont des incapacités qui sont sur le marché du travail versus 85% des personnes. Donc, on voit vraiment l'effet de scolarité là, qui influence positivement la participation des personnes.
La scolarité qui va potentiellement permettre à ces personnes d'avoir accès à des emplois plus tertiaires, donc des emplois de bureau, des emplois de recherche, moins des emplois physiques ou à port de charge ou nécessité de forts déplacements ou par exemple, on a une absence potentiellement de commodité pour aller pour mener l'emploi.
Voilà, c'est tout à fait vrai parce que si les emplois, en plus, si le télétravail là, semble vouloir se maintenir, donc si les, on sait que plus la scolarité est élevée, plus la probabilité d'occuper un emploi qui peut être fait en télétravail est forte. Donc, ça va avantager les personnes qui sont plus scolarisées, effectivement. Dans ceux qui sont le moins, souvent, bon, on voit les taux d'emploi sont vraiment faibles là, chez les personnes qui ont peu de scolarité, chez les personnes ayant des incapacités. Et probablement que les emplois qui leur sont possibles ou un peu moins dans lesquels ils pourraient travailler, souvent, sont peut-être plus d'ordre manuel ou physique. Et là, ils sont affectés par leurs conditions de façon plus forte.
Que disent vos chiffres sur la capacité des entreprises à accommoder les personnes en incapacité?
Ce n'est pas des aspects qui ont été couverts, qui ont été regardés. Donc, malheureusement, les chiffres ne disent rien. Ce serait intéressant par ailleurs. Là, je pense que ce que vous ressortez, là, c'est un élément d'intérêt là, pour les enquêtes statistiques, de savoir comment les entreprises là, arrivent à plus ou moins bien intégrer les personnes qui ont des contraintes relatives à leur incapacité. Oui.
Un chiffre que j'ai trouvé intéressant dans les faits saillants et à la lecture de votre rapport, c'est que 40% des femmes et des hommes déclarant vivre avec une incapacité sur le marché du travail déclarent avoir vécu de la discrimination. Est-ce que cette discrimination s'applique indépendamment du diplôme ou pas?
On n'a pas pu creuser ces questions-là parce que souvent, c'est des données un peu plus sensibles. Donc on peut pas...
C'est très dur à aller les récupérer.
Ce qu'on sait par ailleurs, par exemple, c'est que ce sont des personnes principalement... En fait, dans ce cas-ci, c'est des personnes qui ont des incapacités qu'on appelle graves ou très graves. Okay. Qu'est-ce qu'on entend par là? Ben, c'est des incapacités là, qui sont très fréquentes, qui handicapent, qui affectent les personnes dans leur quotidien, donc qui vont les limiter, soit des douleurs assez fortes ou encore des problèmes de mobilité ou même de santé mentale. Donc, évidemment, en ayant ces contraintes-là plus sévères, ces personnes-là, lorsqu'elles elles postulent ou elles appliquent sur un emploi ou elles veulent une promotion, elles se disent plus fortement discriminées, en raison de leur situation. Non. Alors ça, c'est évidemment des questions très très sensibles. Puis je pense qu'en tout cas, en fait, l'enquête ne va pas très loin là, sur ces aspects. On évoque un peu l'ampleur du phénomène, mais c'est évident que il faudra avoir plus d'informations pour pouvoir comprendre là, qu'est-ce qui dans quel contexte là, ces discriminations-là se produisent.
Sur un aspect plus général, ces chiffres montrent quand même une absence ou plutôt une diminution de l'égalité des chances dépendant sur le marché du travail dépendant de la condition de la personne.
En fait, c'est votre constat ou c'est une question?
C'est une question,
Ben, comme je vous dis, on peut pas établir là, des conclusions. Par contre, lorsqu'il y aura des données pour la prochaine vague d'enquête, en 2022, là, on pourra voir s'il y a une amélioration de la situation ou plutôt une détérioration ou une certaine stabilisation. Il est clair que la situation des personnes ayant des incapacités, on voit dans l'enquête aussi là, sur l'aspect des aménagements, donc qu'est-ce qui est fait pour pouvoir les accommoder. Il y a des besoins non comblés là, qui persistent là, sur le lieu de travail, donc ça, surtout chez les personnes qui ont des incapacités plus graves.
Merci beaucoup, M. Cloutier-Villeneuve, d'avoir répondu à nos questions ce midi.
Ça me fait plaisir, au revoir.
Merci à vous de nous renseigner sur votre travail aussi. Merci à tous d'avoir été avec nous. Restez aux antennes de Radio VM. Les nouvelles du Vatican nous suivent. Quant à nous, la semaine prochaine, nous nous retrouverons pour un nouveau numéro du Monde d'aujourd'hui.